vue d'ensemble de l'actualité.
Je me porte à la candidature pour devenir chef du Parti québécois. Je pense que le Parti québécois a besoin d'être restructuré, a besoin d'être assumé et a besoin d'être uni également. Le Parti québécois et le mouvement souverainiste au grand complet ont besoin d'être unis. J'irais même peut-être jusqu'à dire la société québécoise.
Drainville PM.
Il est là, Guy Nantel, donc nouveau candidat pour la chefferie du Parti québécois. Guy Nantel, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Quand on veut devenir chef d'un parti, c'est parce qu'on veut devenir éventuellement premier ministre. Mm-hmm. Qu'est-ce qui ferait de vous un bon premier ministre?
Je pense être une des personnes les plus capables de vendre l'idée aux Québécois de la nécessité de l'autodétermination d'un peuple. C'est pas tout ce que ça prend pour être un bon gouvernement, mais je vous dirais que pour moi, c'est la porte d'entrée vers, tu sais, ensuite d'avoir tous nos budgets, tous nos pouvoirs pour ensuite transformer la société comme on le veut, sans les limites du régime fédéral. C'est un peu comme si tu pilotes un avion, mais tu as juste la moitié des manettes que tu peux contrôler. C'est un peu compliqué, hein? Mais si à partir de maintenant, on réussissait à enfin pouvoir s'affirmer comme peuple, avoir une constitution qui affirme clairement qu'on est un pays francophone, hein, unilingue francophone, la seule langue officielle, et qu'on est un endroit où on a des valeurs comme l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité de l'État, la protection des minorités sexuelles, de l'environnement, tout ça, bien, je pense que ce serait une constitution moderne qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait vraiment transformer cette société-là pour aller de l'avant puis se regrouper un peu plus, je dirais.
Vous pensez que les Québécois ont le goût d'entendre parler d'indépendance? Vous pensez que ça fait partie de leurs priorités présentement?
Je vous dirais plus que moi, j'ai le goût d'en parler. Est-ce qu'ensuite, ce sera assez inspirant pour que les Québécois aient le goût d'en entendre parler? Ce sera à eux de décider. Mais chose certaine, en ce moment, c'est difficile pour eux d'avoir le goût d'en parler parce qu'il n'y a personne qui en parle. Il faut pas.
Vous pensez ça vraiment?
Ben, écoutez,
ça fait depuis les années 60 qu'on parle d'indépendance.
Ah bon? Ben, parlez-moi des 25 dernières années. Après, à part Pierre-Carl Péladeau, qui a vraiment parlé d'indépendance? Ça a toujours été attentiste. Ça a toujours été si un jour on a les conditions gagnantes, si les choses tournent en notre faveur, toujours des espèces de conditions un peu vagues.
Mais on le fait avec le peuple. L'indépendance, on va la faire avec le peuple, on s'entend?
Oui, bien sûr. Mais le peuple ne va pas décider pour nous. C'est le gouvernement qui doit d'abord être la locomotive et vendre cette idée-là. Autrement dit, l'analogie que je fais souvent, c'est le pape qui doit parler de religion s'il veut que les églises soient pleines. Mais si le pape se dit, moi, le jour où il y aura des églises pleines, je me mettrai à parler de la religion, ben, je pense qu'il n'y a pas la condition gagnante. Les conditions gagnantes, on ne les attend pas, on les fait soi-même.
Et qu'est-ce que ça changerait l'indépendance pour monsieur et madame tout le monde qui vous écoute?
Ben, ça changerait qu'on n'enverrait pas 55 milliards de dollars par année au fédéral qui décident eux-mêmes ensuite comment ils retournent, de quelle manière. Ça ne ferait pas en sorte qu'il y aurait un dédoublement de 50 ministères et agences en ce moment, comme le ministère des Finances du Québec, le ministère des Finances du Canada, et c'est comme ça pour une cinquantaine de gouvernements. Ça ne ferait pas en sorte qu'on paierait pour tous les parcs au Canada, alors qu'on n'a même pas un demi de 1% des parcs fédéraux.
Mais la péréquation qu'on reçoit du fédéral, l'argent qu'on reçoit du fédéral, écoutez, il y a tout un débat autour de la péréquation, mais il y en a pas mal qui vont vous dire que c'est gagnant, la péréquation pour le Québec. En d'autres mots, on reçoit plus d'argent d'Ottawa qu'on envoie d'argent à Ottawa. Donc, c'est payant d'être dans le Canada. Vous allez répondre quoi à ça?
Ils vont vous dire que c'est gagnant parce qu'ils ne regardent que la péréquation en tant que telle. Mais si on met la péréquation dans tout le financement, dans les 70 milliards qu'on a envoyés au pétrole albertain, parce que les Québécois, eux autres, l'électricité qu'on a chez nous, là, on l'a payé nous autres mêmes. Le fédéral n'a pas mis une scène là-dedans. Mais quand les Albertains parlent de leur pétrole, ben leur pétrole, il se trouve à être en dessous de leur sol, je veux bien. Mais si on réussit à l'exporter, si on réussit à l'extraire du sol, c'est d'abord et avant tout parce que tous les Canadiens payent pour ça. Et c'est la même chose pour les chantiers, tu sais, le chantier naval à Vancouver ou à Halifax. Ben la Davy n'a jamais de contrat équivalent ici au Québec. Et c'est comme ça.
Mais là, ça a été corrigé. Là, vous avez vu que le gouvernement Trudeau a corrigé ça.
Ça pointe des pieds et avec toute la pression, parce que moi, ce dont je vous parle, c'est que ça fait des années, même des décennies, que c'est comme ça. Toutes les grandes sphères de dépenses qu'il y a au fédéral, le Québec y échappe presque tout le temps. Puis la preuve en est, c'est qu'on est la seule société où on a vraiment notre gouvernance intérieure. La GRC, par exemple, qui sert de police provinciale pour à peu près toutes les provinces, sauf l'Ontario,
bien... Mais ça, c'est le choix du Québec. C'est le Québec qui a décidé de se donner une sûreté du Québec.
C'est ce que je vous dis, Bernard. C'est que le Québec a décidé, dans les faits, de s'organiser une société, mais il n'a juste pas le courage de passer la ligne puis de se dire, bon, mais à partir de là, pourquoi on continuerait à payer pour 22 % des dépenses d'un autre pays voisin, alors qu'en réalité, on paye pour 100 % tout ce qui coûte de l'argent ici en ce moment, c'est les hôpitaux, les écoles, tout ça, mais on le paye nous autres même, le Québec. Mais ensuite, pourquoi on envoie 55 milliards? Puis tu sais, pour revenir à sa péréquation, moi, je vais
vous... Oui, parce que les Albertains vous diraient, ben j'espère bien que tu payes pour m'aider à exploiter mon pétrole. La quantité d'argent que je t'envoie dans le chèque de péréquation, c'est donnant-donnant, puis okay. C'est plus que donnant-donnant.
À ce moment-là, moi, je vais vous en poser une question, puis vous n'aurez pas de réponse. Expliquez-moi une chose, M. Drainville, comment vous expliquez là que... un pays sur la Terre peut en conquérir un autre pour y rendre service. Jamais de l'histoire de l'humanité c'est arrivé.
Vous pensez qu'on est un peuple conquis? Mais les Québécois sont un peuple conquis?
Est-ce que vous connaissez votre histoire?
Oui, je la connais un peu.
Vous avez jamais entendu parler de la conquête?
Je la connais un peu, mon histoire.
Alors, pourquoi vous posez la question?
Alors, vous trouvez-vous que les Québécois sont un peuple conquis?
On est un peuple qui a été conquis. Mmh. Et ensuite de ça, quand on a scindé, on a fusionné plutôt le Canada Est et le Canada Ouest, c'était pour payer la dette de l'Ontario. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais en 1840, quand on a créé la Confédération canadienne, qui est une fausse confédération, soit dit en passant, parce qu'une confédération, c'est une union de deux États qui sont indépendants, ben, c'était pourquoi, vous pensez, c'était pour développer toute l'Ouest puis l'Ontario. Puis tout ça.
Okay, mais les vieilles encore récriminations nationalistes, là, c'est des
finir.
Arguments qui ont été utilisés
mais
beaucoup
finir.
Par le passé. Et malheureusement, malheureusement, je le dis parce que les gens connaissent mon opinion sur le fond de l'affaire. Malheureusement, lorsqu'est arrivé le référendum de 80 puis l'autre de 95, les gens ont dit, garde, après tous les arguments qui nous ont été présentés, y compris ceux qu'on entend présentement dans votre bouche, y compris les récriminations du passé, on décide quand même de rester dans le Canada.
Premièrement, en 95, vous savez qu'on s'est fait voler là, avec le ils ont doublé les dépenses électorales, le fédéral, alors que c'était complètement illégal. Jean Chrétien l'a même reconnu. Ce qui comptait pour lui, il s'en foutait de tricher ou pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qui compte, c'est que le Canada reste uni en bout de ligne. Alors, premièrement, ils ont doublé les dépenses électorales à ce niveau-là. Fait, dites pas que les Québécois ont voté contre. Mais je veux juste revenir sur cette histoire de péréquation, là où on reçoit supposément 13 milliards, alors qu'en réalité, c'est 9 parce qu'on fournit dans balance. Là. Mais comment un pays pourrait se plaindre de dire « on vous donne des milliards puis vous survivez grâce à nous » et d'un second souffle dire « mais on se met à genoux et on vous prie de ne pas quitter la Confédération. » Pourquoi se mettre à genoux pour prier des gens qui nous coûtent de l'argent de ne pas quitter? C'est absolument illogique.
OK. Alors, comment vous allez vous y prendre pour gagner cette course-là?
Je vais m'y prendre comme l'entrevue qu'on a présentement, en disant aux gens ce que je pense et en ne faisant pas de demi-mesure autant sur l'histoire, autant sur ma pensée et autant sur... Je ne m'invente pas un personnage politique. Je dis la vérité, je dis aux gens qui seraient beaucoup plus avantagés et je vais leur expliquer les raisons pour lesquelles le Canada tient tant à garder le Québec au sein de la Fédération canadienne.
Puis vous pensez que, mettons que vous gagnez, là vous allez vous présenter aux élections de 2022, dans un comté pour être député, puis peut-être même, vous allez essayer d'être premier ministre, mettons. Puis vous vous voyez dans un débat, là, mettons, contre François Legault, puis Dominique Anglade ou Cusson, je sais pas si ça va être Massé ou Gabriel Nadeau-Dubois, là, vous vous voyez comme ça, comme politicien dans un débat.
Vous avez vous-même fait une course à chefferie. Est-ce que vous vous voyez à l'époque dans un débat contre les gens qui allaient se présenter?
Absolument.
Alors, c'est la même chose pour moi. Si on se présente dans une course à chefferie, on sait très bien que la suite logique, c'est ensuite d'avoir un débat avec les chefs des autres partis.
Puis vous répondez quoi aux gens qui vont dire « un humoriste qui se lance en politique, c'est pas sérieux »?
Ben, moi, je vais leur répondre par une question, de leur dire « expliquez-moi qu'est-ce qui est sérieux et qu'est-ce qui l'est moins. » Pourquoi Bernard Drainville était plus pertinent parce qu'il était journaliste? Pourquoi un journaliste devrait être plus pertinent qu'un humoriste? Pourquoi on ne s'attarde pas plus aux propos que la personne tient plutôt que de se demander c'est quoi son passé, quel genre de personne il a fréquenté, de niaiser avec toutes sortes de questions qui sont absolument sans importance? Il y a des politiciens de carrière, il y a des gens qui sont des avocats, il y a des gens qui sont des hommes d'affaires, des journalistes. Bon, ça, c'est le côté un peu plus conventionnel. Mais en ce moment même, Le chef de l'Assemblée nationale, c'est un animateur qui était à TVA. Je veux dire, pourquoi ça, c'est plus pertinent? Pourquoi il y a des athlètes olympiques qui deviennent du jour au lendemain ministres et que personne ne pose la question? Pourquoi le premier ministre actuel du Canada est un ancien professeur de théâtre? Moi, ça ne me choque pas du tout que Justin Trudeau... moi, c'est sur ses idées que j'aimerais débattre, mais ce n'est pas du tout sur son passé, qu'il a été professeur ou pas. On peut être n'importe quel métier. On peut être plombier ou peu importe. Je trouve que tout le monde a sa pertinence. C'est ça, la démocratie. Sinon, on est dans l'élitisme. On est pour dire, ça, c'est réservé à une seule caste et les autres, vous devez suivre.
Vous êtes habitué de jouer seul sur la scène, faire un one-man show. La politique, c'est un sport d'équipe. Qu'est-ce qui vous prépare au sport d'équipe qu'est la politique?
Je ne connais pas. Je n'ai pas cette expérience-là. Je ne peux pas vous dire quelles seront les difficultés pour moi. Mais c'est sûr qu'un spectacle, on est seul sur scène, mais il y a quand même toute une équipe derrière ça, dans la conception, en tournée, évidemment, avec les techniciens et tout. Il n'y a aucun artiste qui fonctionne totalement seul. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, en tant que chef, conjuguer l'idée d'être un leader tout en travaillant en équipe. Ceci dit, moi, je n'aurais pas le choix de travailler en équipe parce que je n'ai pas l'expérience d'un Sylvain Gaudreau, par exemple. Je n'ai pas la connaissance de tous les dossiers, des sessions parlementaires, de la structure de...
Reconnaissez que vous arrivez, vous êtes vert là, sur
ben,
la...
Absolument.
Ça, pour vous, ce n'est pas un désavantage, mettons, par rapport à un gars comme Gaudreau?
Bien sûr que c'est un désavantage, mais Gaudreau a d'autres désavantages et moi, j'ai d'autres avantages.
Ah oui? C'est quoi les avantages que vous avez sur Gaudreau?
Ben, écoute, moi, je suis très connu. Je connecte avec le public. Je pense que je suis un bon vulgarisateur, un bon communicateur, quelqu'un qui est aimé vraiment par des millions de personnes. Là, puis,
mais là, il y en a qui vont vous aimer moins, là, qui vous aimaient comme humoriste. Mais là, à partir du moment où vous choisissez un camp politique, il y en a qui vont vous aimer moins. Vous êtes conscient de ça?
C'est correct. Moi, j'ai jamais fait les choses. J'ai jamais fait de marketing puis de clientélisme. Je me souviens quand j'animais des galas juste pour rire, on me disait toujours ils mettaient la caméra puis ils disaient explique-nous pourquoi il faudrait aller voir ton gala plus que celui des autres. Puis je disais ben non, j'ai pas à convaincre les gens d'aller voir mon gala plus que celui des autres. Je suis convaincu que celui des autres est excellent aussi, mais si vous avez envie de m'écouter, ben vous êtes les bienvenus. Puis moi, je trouve qu'il y a une opportunité qui se présente là, c'est justement le fait qu'il y a quelqu'un qui est un gars du peuple, qui est un gars vraiment... que moi, j'ai vécu les 16 premières années de ma vie dans les HLM. Je suis quelqu'un qui a connu ça, moi, la vraie vie de tout le monde. Et vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer les limites du système politique, s'il y en a. Et peut-être aussi qu'il n'y en a pas de limite. Peut-être qu'on...
Puis vous êtes prêt à prendre les coups?
De...
Vous êtes prêt à prendre les coups et les sacrifices,
ben, oui,
les sacrifices familiaux que les... Ben, ça va être dur. Vous l'avez même dit. J'accepte de moins voir ma famille.
Ben oui,
c'est un
correct.
Prix que vous êtes prêt à payer.
Bien sûr. Ben oui, c'est pour ça que j'ai pris 2 mois à réfléchir comme il faut à ça, parce que c'est des discussions avec la famille. C'est de voir aussi l'impact des médias quand des nouvelles sortent. Puis il faut vraiment prendre le temps de bien...
Vous avez la carapace pour prendre les coups qui viennent avec la politique?
Ça fait 32 ans que je fais le métier d'humoriste. Puis dans mon genre d'humour, j'ai souvent eu des controverses et toutes sortes de scandales. J'ai pas peur de ça. Les tempêtes, ça m'intimide pas, moi, les médias, les journalistes. Il y avait un scrum un matin, tout le monde me dit « Tu vas voir, ça m'impressionne pas du tout. » Je dis ce que j'ai à dire, puis ensuite, si les gens ne veulent pas m'élire comme chef, j'ai aucun problème avec ça. J'ai un métier que j'adore. C'est une démarche citoyenne, ce que
puis
je
vous,
fais là.
Puis vous, quand vous allez vous présenter, ça va être clair. Si vous votez pour moi, Guy Nantel, et pour le Parti québécois, il va y avoir un référendum sur l'indépendance.
Ben non seulement ça va être clair, mais il n'y aura aucune réforme sociale majeure tant et aussi longtemps que le référendum n'aura pas eu lieu. La raison est bien simple.
Mais là, il va falloir gouverner. Il y a des écoles, des hôpitaux à gérer.
Mais
là.
Gouverner, c'est une chose, mais des réformes sociales, c'est pas gouverner, ça. Ça
fait que, mais vraiment... genre un référendum dans une première année?
Je vous dirais dans la première moitié d'un premier mandat. Et après ça, quand on aura nos pouvoirs et notre budget, on pourra faire des vraies réformes, faire rêver le monde pour vrai avec des vrais projets qui vont être différents. Parce qu'en ce moment, dans chaque débat électoral, on promet des trucs, mais grosso modo... si quelqu'un regarde les 20 dernières années, ben, on peut pas dire qu'il y a un gouvernement qui a tant transformé le Québec que ça, à part peut-être justement la loi de la laïcité qui vient d'arriver avec la CAQ.
Je dois dire, les réactions que j'ai par texto sont largement positives. Il y a quelques réactions négatives. Il y a, parmi ces réactions-là, des gens qui vous trouvent arrogant dans votre ton, dans votre manière de présenter vos arguments. Ben, je prends la peine de dire, c'est mettons 8 sur 10 positifs.
Pourquoi vous me lisez pas positif d'abord?
Ah, mais je vous l'ai dit, il y en a 8 sur 10 qui sont positives, ben mais ouais. dans les deux, je dirais dans les 20% négatives, ce qui revient, c'est l'arrogance.
Oui, ben c'est correct. Ça fait partie peut-être d'une chose qui est importante, c'est que quand on a des interviews comme ça où on ne fait que nous présenter l'adversité de la position dans laquelle on est. On peut avoir l'air un peu dur, un peu rigide, puis c'est vrai que c'est peut-être une impression que je peux donner, mais c'est une nécessité pour le peuple québécois de vraiment passer ce stade-là d'indécision dans lequel on patauge, certainement, en tout cas, depuis au moins, tu sais, si on prend l'histoire moderne, le rapatriement de la Constitution. Et je sais que des gens qui me trouvent peut-être un peu arrogant, ben, ils sont certainement des fédéralistes, puis je respecte sincèrement leur choix. Mais je pense que, tu sais, Jean Lapierre, qui travaillait ici, m'avait dit dans une entrevue qu'il avait donnée juste avant de mourir, qu'on peut encore trouver sur le web, d'ailleurs, si vous faites nos deux noms. Mm-hmm. Il m'avait dit, dans tous les cas, même si le Québec décide de signer la Constitution et d'intégrer le Canada, il faudra un jour que les Québécois reconnaissent que le mouvement souverainiste doit absolument être puissant tout le temps, même à l'intérieur du Canada, sans quoi on va disparaître.
Ça devient une sorte de police d'assurance dans ce cas-là.
Ben, ça devient un mode de survie, hein, parce que si on reste dans le Canada et qu'il n'y a plus de souverainisme, je vous assure que c'est une question de temps avant que la seule nation francophone d'Amérique disparaisse.
Alors, vous avez une idée maintenant des arguments que Guy Nantel va faire valoir dans cette course-là, donc course à la chefferie du Parti québécois. Le chef sera élu au mois de juin. Si c'était quelqu'un d'autre qui était devant moi, je dirais la même chose. Je dirais bonne chance, Guy Nantel.
Merci, merci.
Et on se reparle peut-être au terme de cette course.
Avec grand plaisir, peut-être avant.
Peut-être avant. Dans un instant, une histoire d'école hantée. Une école hantée au Saguenay. Puis là, ils ont fait affaire avec une médium pour essayer de chasser les mauvais esprits de cette école hantée dans un instant.